Chapitre 3. Monsieur Riley donne son avis au sujet d'une pension pour Tom. Ce monsieur à ample cravate blanche faisant jabot, qui prend si agréablement son mélange d'eau-de-vie et d'eau avec son bon ami Tulliver, est monsieur Riley. C'est un homme au teint de cire et aux mains grasses, ayant une éducation plutôt trop distinguée pour un commissaire priseur, mais un cœur assez large pour montrer une grande dose de bonhomie envers de simples connaissances de campagne, aux habitudes hospitalières. M. Riley parlait avec bienveillance de semblables amis, comme de gens de la vieille école. La conversation vient de tomber. M. Tulliver, non sans raison particulière, s'est abstenu de raconter pour la septième fois la froide réplique par laquelle Riley s'est montré trop fort pour Dix, comment Wakeham a eu le toupet rabaissé une fois dans la vie, maintenant que l'affaire est arrangée par arbitrage. Et comment il n'y aurait eu la moindre dispute sur la hauteur de l'eau si chacun était ce qu'il devrait être et si le vieux Harry, le diable, n'avait pas créé les procureurs. M. Tulliver était à tout prendre un homme à solides opinions traditionnelles, mais sur un ou deux points, il s'était fié à sa seule intelligence et en était venu à plusieurs conclusions peu sûres. Entre autres, que les rats, les charançons et les procureurs étaient créés par le vieux Harry. Malheureusement, il n'avait personne pour lui dire qu'il professait là un vil manichéisme, autrement il aurait reconnu son erreur. Mais aujourd'hui, il est clair que le bon principe l'emporte. L'affaire de force d'eau en question avait été assez compliquée, quoique, envisagée à un certain point de vue, elle sembla aussi simple que de dire que de l'eau est de l'eau. Puis enfin, quelque embrouillée qu'elle fût, elle n'avait pas embarrassé Riley. M. Tulliver prenait son grog un peu plus fort qu'à l'ordinaire, et pour un homme qu'on peut supposer avoir quelques centaines de livres sterling dormant chez son banquier, il était assez imprudemment expansif dans l'expression de sa haute estime pour les talents en affaires de son ami. Mais l'écluse est un sujet de conversation qu'on peut réserver. On pourra toujours le reprendre au même point, et précisément dans les mêmes conditions. Tandis qu'il est un autre sujet, nous le savons, sur lequel M. Tulliver a un pressant besoin de l'avis de M. Riley. C'est par cette raison particulière qu'il reste silencieux pendant un moment, après sa dernière gorgée, et frotte ses genoux d'une manière méditative. Il n'est pas âme à faire une brusque transition. « Ce monde est embarrassant », a-t-il souvent dit, « et si vous conduisez votre char trop vite, vous courez risque d'arriver à un détour périlleux. » M. Riley, de son côté, n'est point impatient. Pourquoi le serait-il? Assis devant un bon feu, prenant de copieuses prises et dégustant gratis de l'excellent grog chaud. « J'ai une autre chose dans la tête, » dit enfin M. Tulliver d'un ton plus bas qu'à l'ordinaire, en regardant fixement son compagnon. « Ah !» dit M. Riley, d'un air de doux intérêt. C'était un homme à épaisses paupières de cire et à sourcils hautement arqués, paraissant exactement le même en toutes circonstances. Cette immobilité de trait et l'habitude de prendre une prise avant de donner une réponse en faisaient un triple oracle pour M. Tulliver. « C'est une affaire toute particulière, » continua celui-ci, « c'est au sujet de mon garçon Tom. » En entendant ce nom, Maggie, qui était assise sur une petite chaise basse près du feu, avec un gros livre ouvert sur ses genoux, secoua ses épais cheveux noirs et releva attentivement la tête. Peu de sons pouvaient réveiller Maggie quand elle rêvait sur son livre. Mais le nom de Tom eut le même effet que le sifflement le plus aigu. À l'instant, elle fut sur ses gardes, l'œil brillant comme un terrier de Skye qui suspecte quelque chose de dangereux et prête à tout événement à s'élancer contre quiconque pourrait menacer Tom. « Voyez-vous, j'ai envie de le mettre dans une nouvelle école à la Saint-Jean, » dit M. Tulliver. « Il revient de l'Académie à la Notre-Dame. Je le laisserai à lui-même pour un trimestre, mais après ça, j'ai envie de l'envoyer dans une école véritable où l'on pourra lui donner une bonne instruction. « Bien, » dit M. Riley. « Vous ne pouvez rien lui procurer de plus avantageux qu'une bonne instruction. » Ce n'est pas, ajouta-t-il avec une intention polie, qu'un homme ne puisse être excellent meunier et fermier, et de plus très fin et adroit sans le secours du maître d'école. « Je vous crois, » dit M. Tulliver, en clignant des yeux et penchant la tête de côté. « Cela s'est vu. mais je n'entends pas dire que Tom doive être meunier et fermier. Je n'y trouverai rien d'amusant, car si j'en faisais un meunier fermier, il serait impatient de prendre en main le moulin et les terres, et voudrait me faire comprendre qu'il est temps que je me retire et songe à faire une bonne fin. Non, non, j'en ai assez vu de fils comme ça. Je ne me déshabillerai jamais qu'au moment de me coucher. Je donnerai à Tom de l'éducation, et je le mettrai dans les affaires, afin qu'il puisse faire son propre nid sans me chasser du mien. C'est bien assez joli qu'il l'ait quand je serai mort et parti. On ne me mettra pas à la bouillie avant que j'aie perdu mes dents. C'était évidemment un point sur lequel M. Tarleva était très sensible. Et l'impétuosité inusitée avec laquelle il avait proféré si rapidement et si éloquemment ces paroles se manifesta encore pendant quelques minutes par un mouvement de défi de la tête allant de droite à gauche et des « non, non, non » qui revenaient de temps en temps comme un grondement prolongé. Ces symptômes de colère furent vivement observés par Maggie et la blessèrent au vif. On paraissait supposer Tom capable de mettre son père hors de chez lui et de rendre, pour ainsi dire, l'avenir tragique par sa méchanceté. Cela ne pouvait se supporter. Aussi, Maggie, oubliant tout à fait son gros livre, qui tomba avec retentissement en dedans du garde-feu, s'élança de sa chaise et, se plaçant entre les jambes de son père, elle lui dit d'un ton moitié chagrin et moitié indigné « Père, Tom ne sera jamais méchant pour vous. Je sais qu'il ne le sera pas. » Madame Tarleva était hors de la chambre, surveillant la confection d'un mets choisi. Le cœur de M. Tarleva fut touché, en sorte que Maggie ne fut pas grondée à cause du livre. M. Riley le releva tranquillement et le regarda, tandis que le père, laissant percer sur ses traits une expression de tendresse, riait et frappait légèrement les épaules de la petite fille, qu'il prit par les mains et garda entre ses jambes. « Quoi, il ne faut pas dire de mal de Tom, eh ?» dit M. Tarleva en regardant Maggie d'un œil brillant. Puis d'un ton plus bas, et se tournant vers Riley, comme si Maggie ne pouvait pas entendre, elle comprend tout ce dont on parle, comme ça ne s'est jamais vu. Ah, si vous l'entendiez lire, aussi couramment que si elle savait par cœur, et toujours sur son livre. Mais c'est mal, ajouta M. Tarleva, comme pour s'interrompre lui-même. Une femme n'a pas besoin d'être si instruite. Ça ne peut amener que du chagrin, j'en ai peur. Mais Dieu vous protège. Ici, le ravissement reprenait délicieusement le dessus. Elle peut lire les livres et les comprendre mieux que la moitié des gens qui ont atteint leur croissance. Les joues de Maggie commencèrent à s'enflammer d'une excitation de triomphe. Elle pensa que M. Riley aurait maintenant de la considération pour elle, dont jusqu'ici il était évident qu'il ne se préoccupait guère. M. Riley feuilletait le livre. Elle ne pouvait rien lire sur son visage aux sourcils arqués et élevés, mais bientôt il la regarda et dit « « Voyons, venez me parler de ce livre. Voici quelques gravures, je voudrais savoir ce qu'elles signifient. » Maggie, les joues en feu, alla sans hésitation vers M. Riley et regarda le livre, le prenant avec ardeur par un coin et secoua sa chevelure en disant « Oh, je vous expliquerai ce que cela veut dire. C'est une terrible peinture, n'est-ce pas? Je ne puis m'empêcher de la regarder. Cette vieille femme dans l'eau, c'est une sorcière. » On l'y a mise pour découvrir si elle est sorcière ou non. Si elle surnage, c'en est une. Et si elle se noie et meurt, vous savez, elle est innocente. Ce n'est pas une sorcière, mais seulement une pauvre femme niaise. Mais à quoi ça lui servira-t-il, dites-moi, quand elle sera noyée? Seulement, je suppose qu'elle ira au ciel, et que Dieu lui en tiendra compte. Et cet horrible maréchal qui rit, les bras sur les hanches, n'est-il pas bien laid? Je vous dirai qui c'est. C'est le diable, réellement. » Ici, la voix de Maggie devint plus forte et éloquente. « Ce n'est pas un vrai maréchal, car le diable prend la figure des hommes méchants. Il se promène ça et là et fait faire aux gens de vilaines choses. Il prend plus souvent la figure d'un méchant homme qu'une autre, parce que, vous savez, si les gens croyaient que c'est le diable, s'ils rugissaient contre eux, ils se sauveraient et il ne pourrait pas leur faire ce qu'il veut. » M. Tarleva avait écouté cette explication de Maggie avec une surprise qui le pétrifiait. Mais sur quel livre est-ce que cette petite a mis la main? S'écria-t-il enfin. L'histoire du diable par Daniel Defoe, dit M. Riley. Ce n'est pas tout à fait un ouvrage convenable pour une petite fille. Comment se trouve-t-il parmi vos livres, Tarleva? Maguet parut blessé et découragé lorsque son père dit « Mais c'est un de ceux que j'ai acheté à la vente de Partridge. » Ils étaient tous reliés de même, une bonne reliure, vous voyez, et j'ai pensé que ce devait tous être de bons livres. Il y a parmi eux « La Sainte Vie et Mort » de Jeremy Taylor. J'en lis souvent le dimanche. M. Taleva avait en quelque sorte un sentiment de familiarité avec ce grand écrivain, parce que son nom était aussi Jérémie. Il y a une quantité de livres, des sermons pour la plupart, je crois, et j'ai pensé qu'ils étaient tous sur le même modèle, pour ainsi dire. Il paraît qu'on ne doit pas juger sur l'apparence. Le monde est bien compliqué. « Bien, » dit M. Riley d'un ton d'avertissement protecteur, en passant la main sur la tête de Maguet. « Je vous engage à mettre de côté l'histoire du diable et à lire quelque chose de plus agréable. N'avez-vous pas de livre plus joli ?»« Oh oui, » dit Maguet, un peu ranimé par le désir de montrer la variété de ses lectures. « Je sais que ce livre n'est pas joli, mais j'en aime les images sur lesquelles je fais les histoires que j'invente, vous savez. J'ai encore les fables d'Ésope, un livre sur les kangourous et autres choses, et le voyage du pèlerin. »« Ah, un excellent livre, » dit Riley. Vous ne pouvez en lire un meilleur. Bon, mais il y a aussi beaucoup parlé du diable dans celui-là, dit Maguet, triomphante. Et je vous montrerai son portrait avec sa véritable forme quand il combat Chrétien. Maguet courut aussitôt au coin de la chambre, sauta sur une chaise et prit sur la petite bibliothèque un curieux et vieil exemplaire de Bunyan, qui s'ouvrit d'emblée, sans qu'elle eût la peine de chercher, à la gravure demandée. « Le voilà, » dit-elle, revenant en courant vers M. Riley. « Et Tom l'a peint pour moi avec ses couleurs, pendant qu'il était ici aux dernières vacances. Le corps tout noir, voyez-vous, et les yeux rouges comme du feu, parce qu'il est tout de feu en dedans, et qu'il brille en dehors par ses yeux. « Allons, allons, » dit M. Taleva d'un ton décidé, commençant à se trouver presque mal à l'aise de ses remarques libres sur l'apparence personnelle d'un être assez puissant pour créer des procureurs. « Ferme ce livre et que nous n'entendions plus parler de ce genre. Ainsi que je le pensais, l'enfant apprend plus de mauvais que de bon avec ses lectures. Va voir ce que fait ta mère. » Maggie, peinée de cet affront, ferma aussitôt le livre. Mais, se sentant peu disposée à aller vers sa mère, elle fit un compromis, en allant dans un coin obscur derrière le fauteuil de son père. Elle s'occupa de sa poupée, pour laquelle elle avait parfois des accès de tendresse, en l'absence de Tom. Elle en négligeait la toilette, mais elle la couvrait de tant de baisers que les joues de cire en avaient pris l'apparence d'une pâleur maladive. « Avez-vous jamais rien entendu de cette force ?» dit M. Taleva quand Maggie se retirait. « C'est dommage qu'elle ne soit pas un garçon. Elle aurait pu affronter les procureurs, elle l'aurait pu. C'est la chose la plus étonnante. » Ici, elle baissa la voix. « Quand je pense que j'ai choisi la mère, parce qu'elle n'était pas trop clairvoyante, tout en ayant très bonne mine, et venant d'une famille remarquable pour la direction du ménage. Mais je l'ai préférée à ses sœurs justement parce qu'elle était un peu faible d'esprit, parce que je ne voulais pas qu'on essayât de me diriger dans ma propre maison. Mais, voyez-vous, quand un homme a un peu de quelque chose dans le cerveau, on ne peut savoir de quel côté ça se portera. Et, tout agréable que ce soit d'avoir une femme simple, elle peut vous mettre au monde des garçons imbéciles et des filles rusées, absolument comme si le monde se retournait sans dessus-dessous. C'est une chose extraordinairement embarrassante. » La gravité de M. Riley céda, et il se dérida un peu, tout en s'administrant une prise de tabac avant de dire « Mais votre garçon n'est pas un sot, n'est-ce pas? Je l'ai vu la dernière fois que j'étais ici, occupé à faire des engins de pêche. Il paraissait tout à fait si bien connaître. » « Non, Tom n'est pas ce qu'on peut appeler un sot. Il a une idée assez nette des occupations du dehors. » Et une espèce de sens commun qui lui fait prendre les choses par le bon côté. Mais il est lent à parler, voyez-vous. Il lit assez médiocrement et ne peut souffrir les livres. Il ne sait pas l'orthographe à ce qu'on me dit. Il est aussi réservé que possible avec les étrangers. Et vous ne l'entendrez jamais dire quelque chose de spirituel, comme en dit la petite fille. À présent, ce que je désire, c'est de l'envoyer à une école où on le rende un peu plus leste de langue et de plume, et où l'on en fasse un gaillard dégourdi. Je tiens à ce que mon fils puisse être au niveau de ces individus qui l'emportent sur moi parce qu'ils ont étudié davantage. Ce n'est pas que, si le monde était resté ce que Dieu l'a fait, je n'eusse pu faire mon chemin et tenir tête aux plus habiles. mais on a entouré et enveloppé les choses de mots si déraisonnables et qui leur ressemblent si peu que je ne suis que trop souvent en défaut. Les choses sont si entortillées que plus vous allez votre droit chemin, plus vous êtes embarrassé. » Monsieur Talleyrand prit une gorgée, l'avala lentement et secoua la tête d'un air mélancolique, faisant l'application de cette triste vérité qu'une intelligence parfaitement saine est dépaysée dans ce monde insensé. « Vous avez bien raison, Talleyrand, observa M. Riley. Il vaut mieux dépenser 100 ou 200 livres à instruire votre fils que de les lui laisser par votre testament. C'est ce que j'aurais tâché de faire pour mon fils, si j'en avais eu un. Quoique, Dieu le sait, je n'ai pas d'argent liquide à dépenser comme vous pouvez le faire, Talleyrand, et j'ai une maisonnée de filles par-dessus le marché. » Je suppose que vous devez connaître quelque établissement d'éducation qui puisse faire mon affaire pour Tom, dit M. Talleyrand, sans se laisser détourner de son but par la moindre compassion pour le manque d'argent comptant de M. Riley. Celui-ci prit une prise de tabac et tint M. Talleyrand dans la tente, ayant l'air de se consulter en silence avant de répondre. Je sais une belle occasion pour quelqu'un qui aurait assez d'argent, et c'est votre cas, Talleyrand. Le fait est que je ne voudrais engager aucun de mes amis à envoyer son garçon dans un de ces grands pensionnats, s'il était à même de faire mieux. Mais si quelqu'un désirait faire donner à son fils une éducation et une instruction supérieure, dans une maison où le jeune homme pourrait être le compagnon de son maître, un professeur du premier ordre, je connais l'homme. Je ne voudrais pas parler de cette maison au premier venu, parce que je ne crois pas que chacun pût réussir à y entrer rien qu'en se présentant. Mais je vous en parle, Talleyrand, tout à fait entre nous. » Le regard fixe et interrogateur dont M. Talleyrand examinait la figure de son ami, comme s'il en attendait un oracle, devint tout à fait impatient. « Eh bien, voyons, j'écoute, » dit-il, en s'arrangeant dans son fauteuil, avec la complaisance d'une personne qui se croit digne d'une communication importante. « Il a étudié à Oxford, » dit M. Riley sentencieusement, serrant les lèvres et regardant M. Talleyrand, pour observer l'effet de ce préliminaire intéressant. « Quoi, un ministre ?» dit celui-ci d'un air de doute. « Oui, et qui est maître Essard. L'évêque, à ce que je sais, en a une très haute opinion. Et même c'est l'évêque qui lui a fait avoir sa cure actuelle. « Ah !» fit M. Talleyrand, pour qui toutes ces idées étaient nouvelles. « Mais que ferait-il de Tom ?»« Eh mais, il aime à enseigner. Il désire faire usage de ce qu'il a appris. » Et un pasteur en a peu l'occasion dans les devoirs de sa charge. Il aimerait à recevoir chez lui un ou deux jeunes garçons comme élèves pour occuper son temps d'une manière profitable. Ces jeunes gens seraient tout à fait de la famille, et la meilleure chose du monde pour eux, c'est qu'ils resteraient continuellement sous l'œil de Stelling. Mais pensez-vous qu'au dîner il voulut servir deux fois du pudding à ce pauvre garçon, interrompit Mme Talleyrand, qui venait de reprendre sa place. « Car il aime le pudding plus qu'on ne peut croire. Ce serait terrible de penser qu'on le rationne. »« Et combien d'argent demande-t-il » dit M. Talleyrand, auquel son instinct disait que les services de cet admirable maître Essard devaient être estimés à un haut prix. « Mais je connais un ministre qui demande 150 livres par an pour ses plus jeunes élèves, et c'est un homme qu'on ne peut pas comparer à Stelling. » Je tiens de bonnes sources que l'un des principaux personnages d'Oxford disait que Stelling pouvait s'élever aux plus hautes dignités s'il le voulait. Mais il ne tient pas aux honneurs universitaires. C'est un homme calme, qui n'aime pas le bruit. Ça vaut beaucoup, beaucoup mieux, mais 150 livres, c'est un prix exorbitant. Je n'ai jamais pensé à payer autant que cela. Une bonne éducation, laissez-moi vous le dire, Talleyrand, n'est pas chère à ce prix-là. Toutefois, Stelling est accommodant. Ce n'est pas un homme exigeant. Je ne doute pas qu'il ne prenne votre fils pour 100 livres, et c'est ce que peu d'autres ministres consentiraient à faire. Je lui écrirai à ce sujet, si vous le désirez. » M. Talleyrand se frotta les genoux et regarda le tapis d'un air méditatif. « Mais peut-être est-il célibataire, observa Mme Talleyrand dans cet intervalle, et je n'ai pas grande opinion des gouvernantes. Mon frère, celui qui est mort, avait chez lui une gouvernante, et elle a pris la moitié des plumes des meilleurs lits. Les a empaquetés et emportés. On ne peut savoir la quantité de linge qu'elle a fait disparaître. Elle s'appelait Scott. Ça me briserait le cœur d'envoyer Tom là où il y aurait une gouvernante. Et j'espère que vous n'y penserez pas, M. Talleyrand. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille à cet égard, madame, dit M. Riley, car Sterling est marié à la plus gentille petite femme qui soit. Il n'y a pas au monde une âme plus douce. Je connais très bien sa famille. Elle a beaucoup de votre teint avec des cheveux blonds et bouclés. Elle vient d'une bonne maison de Matport. Sterling n'est pas de ceux qu'on trouve tous les jours. Il est plutôt difficile au sujet des personnes avec lesquelles il veut bien entrer en relation. Cependant, je pense qu'il ne refuserait pas de recevoir votre fils. Je crois qu'il le prendrait sur ma recommandation. Je ne sais pas ce qu'il pourrait objecter contre notre garçon, dit Madame Taleva, avec une légère teinte d'indignation maternelle. Un garçon qui a le teint le plus frais que l'on puisse désirer. Mais je songe à une chose, dit M. Taleva, en regardant M. Riley, après avoir longtemps examiné le tapis. Est-ce qu'un pasteur ne serait point presque trop instruit pour faire de notre fils un homme d'affaires? Mon opinion sur les ministres est qu'ils ont une espèce d'instruction qui ne se trouve pas assez pratique. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin pour Tom. Je désire qu'il connaisse les chiffres, qu'il écrive comme de l'imprimé, qu'il soit prompt à voir les choses, qu'il sache ce que les gens veulent dire et qu'il puisse envelopper les affaires de termes auxquels on ne puisse rien opposer. C'est une superbe chose, certainement, conclut M. Taleva, en secouant la tête, que de pouvoir faire connaître à un homme ce que vous pensez de lui, sans avoir besoin de payer quelqu'un pour cela. Oh, mon cher Taleva, dit M. Riley, vous vous méprenez tout à fait à l'égard du clergé. Tous les meilleurs instituteurs en font partie. Les instituteurs qui ne sont pas du clergé sont en général une classe d'individus très médiocres. Oui, comme ce Jacob de l'Académie, interposa M. Taleva. Certainement. Des hommes qui, pour la plupart, ont échoué dans quelque autre entreprise, tandis qu'un ministre est un homme comme il faut, par sa profession et son éducation. Il a, de plus, l'instruction voulue pour bien poser un garçon et le préparer à entrer dans toute carrière avec avantage. Il peut s'en trouver parmi eux quelques-uns qui sont plutôt des rêveurs. Mais vous pouvez être sûr que Sterling n'est pas de ce nombre. C'est un homme très éveillé, je puis vous l'assurer. Dites-lui un petit mot seulement, et cela suffit. Vous parlez d'arithmétique, par exemple. Vous n'avez qu'à dire à Sterling, je désire que mon fils soit un bon calculateur, et vous pouvez vous en remettre à lui pour le reste. M. Riley s'arrêta un moment, tandis que M. Taleva, un peu rassuré quant à l'enseignement clérical, posait intérieurement devant un M. Sterling imaginaire son « je désire que mon fils sache l'arithmétique ». Voyez-vous, mon cher Taleva, quand vous vous adressez à un homme d'éducation complète, comme Sterling, il n'est nullement embarrassé pour entreprendre quelque branche d'instruction que ce soit. Quand un ouvrier connaît l'emploi des outils, il peut faire une porte aussi bien qu'une fenêtre. Pour ça, c'est vrai, dit M. Taleva, presque convaincu maintenant que le clergé donnait les meilleurs instituteurs. Eh bien, je vais vous dire ce que je ferai pour vous, dit M. Riley, et je ne le ferai pas pour tout le monde. Je verrai le beau-père de Sterling où je lui adresserai quelques lignes, quand je serai de retour à Brassing, pour lui dire que vous désirez placer votre fils chez son gendre, et je pense que Sterling vous écrira et vous enverra ses conditions. « Mais il n'y a rien de si pressé, dit Madame Taleva, car j'espère, Monsieur Taleva, que vous ne ferez pas entrer Tom à sa nouvelle pension avant la mi-juin. Il a commencé l'académie au trimestre de Notre-Dame, et vous voyez quel bien il en est résulté. Eh, Bessie, ne brassons jamais avec de la mauvaise drèche le jour de la Saint-Michel. Sinon, nous aurons une pauvre boisson, dit Monsieur Taleva, en clignant de l'œil et souriant à Monsieur Riley avec l'orgueil naturel à un homme qui a une femme docile, évidemment son inférieur pour l'intelligence. Mais il est vrai qu'il n'y a rien qui presse. Quant à ça, tu as touché juste, Bessie. Il serait peut-être aussi bien de ne pas différer trop longtemps de s'en occuper, dit tranquillement M. Riley, car Sterling peut recevoir des propositions d'un autre côté, et je sais qu'il ne voudrait pas prendre plus de 2 ou 3 pensionnaires, si même il en prend autant. À votre place, je crois que j'entamerai tout de suite ce sujet avec lui. Il n'y a aucune nécessité à envoyer le garçon avant la mi-juin, mais je voudrais être assuré et certain que personne ne prit d'avance votre place. Oui, il y a là quelque chose, dit M. Taleva. Père, dit alors Maggie, qui s'était de nouveau furtivement avancée vers lui, écoutant la bouche entr'ouverte et tenant sans dessus-dessous sa poupée dont elle écrasait le nez contre le bois du fauteuil. Père, est-ce bien loin d'ici que Tom doit aller? Ne pourrons-nous jamais aller le voir? « Je n'en sais rien, ma fille, dit le père tendrement. Demande à M. Riley. » Maggie arriva promptement en face de M. Riley et dit « À quelle distance est-ce, s'il vous plaît, monsieur ?»« Oh, c'est très loin d'ici, répondit celui-ci, qui était de l'opinion qu'il faut toujours parler aux enfants en plaisantant, à moins qu'ils ne soient pas sages. Il vous faudra emprunter les bottes de 7 lieues pour arriver jusqu'à lui. » « Ça ne veut rien dire, dit Maggie, en secouant la tête fièrement. » Et elle se retourna, les larmes lui venant aux yeux. Elle commençait à ne pas aimer M. Riley. Il était évident qu'il la trouvait sotte et sans importance. « Silence, Maggie, c'est une honte à vous de faire des questions et de babiller, dit sa mère. Venez vous asseoir sur votre petite chaise et retenez votre langue, entendez-vous » Mais, ajouta Mme Taleva, dont la propre alarme était éveillée, « Est-ce si loin que je ne puisse le blanchir et le raccommoder ?»« À environ 15 000, voilà tout, dit M. Riley. Vous pourrez y aller en char et en revenir dans la journée très commodément. Ou bien, comme Stelling est très hospitalier, il sera bien aise de vous garder. » « Mais c'est trop loin pour le linge, je m'en doute, » dit tristement Mme Taleva. L'arrivée du souper ajourna fort à propos cette difficulté et évita à M. Riley la peine de trouver quelque solution ou quelque compromis, travail qu'autrement il aurait sans doute entrepris. Car, ainsi que vous le voyez, c'était un homme très obligeant. Il s'était donné la peine de recommander M. Stelling à son ami Taleva sans s'attendre à ce qu'aucun avantage réel dût en résulter pour lui-même, malgré les subtiles indications du contraire qu'aurait cru apercevoir un observateur trop sagace. Il n'y a rien de plus trompeur que la sagacité, lorsqu'elle suit une mauvaise piste. Et si elle se persuade que les hommes parlent et agissent ordinairement par des motifs prémédités et avec un but intéressé, elle est sûre d'être mise en défaut dans cette poursuite d'un gibier imaginaire. La convoitise qui complote et l'artifice qui prémédite pour arriver à un avantage personnel ne sont nulle part fréquents, si ce n'est sur la scène dramatique. Ils demandent à l'intelligence un travail trop actif pour que la plupart des habitants de nos contrées s'en rendent coupables. Il est bien assez facile de gâter la vie de nos voisins sans prendre autant de peine. Nous pouvons le faire par une lâche approbation ou une nonchalante omission, par de triviales faussetés pour lesquelles nous avons à peine un prétexte, par de légères tromperies sous le voile du badinage, par des flatteries maladroites, par des insinuations gauchement improvisées. La plupart de nous vivent au jour le jour, avec une petite troupe de désirs momentanés dont ils tâchent d'apaiser l'avidité, et pensent peu à peu à semer largement pour les récoltes de l'année suivante. M. Riley, étant un homme d'affaires, n'était point insouciant à l'égard de ses intérêts. Mais il cédait à l'influence de petites inspirations spontanées, sans être dirigé par des desseins longtemps prémédités. Il n'avait aucun arrangement particulier avec le révérend Walter Stelling. Au contraire, il savait peu de choses de ce maître Essard et de ses connaissances acquises. Pas assez, peut-être, pour garantir une recommandation aussi forte que celle qu'il avait donnée à son ami Taleva. Mais il voyait en M. Stelling un excellent classique, car Gadsby l'avait dit, et le cousin germain de Gadsby était gouverneur à Oxford. Cela offrait un meilleur fondement pour sa croyance que n'auraient pu le faire ses propres observations. Quoique M. Riley eût reçu une teinture des classiques à la grande école libre de Matport et eût le sentiment du latin en général, cette langue ne lui était pas familière. Sans aucun doute, il avait conservé un arôme subtil de son juvénile contact avec le De Senectute et le 4e livre de l'Énéide. Mais cet arôme avait cessé d'être reconnaissable comme classique, et il ne se laissait apercevoir que dans l'élégance et la force de son style de commissaire-priseur. Puis Stelling sortait d'Oxford. Et tous les étudiants d'Oxford sont toujours... Non, non, ce sont ceux de Cambridge qui sont tous bons mathématiciens. Mais un homme ayant reçu une éducation universitaire doit pouvoir enseigner tout ce qu'il veut, surtout un homme comme Stelling, qui avait, dans une occasion politique, prononcé un discours à un dîner à Matport avec tant de facilité qu'on avait remarqué généralement que ce gendre de Timpson voyait très clairement les choses. On devait s'attendre alors à ce qu'un citoyen de Matport, de la paroisse de Sainte-Ursule, ne négligeât pas de rendre service à un gendre de Timpson. Car ce Timpson était l'un des hommes les plus utiles et les plus influents de la paroisse, avait une belle quantité d'affaires et qu'il savait mettre en bonne main. M. Riley aimait de tels hommes, même en dehors des bénéfices qu'il pouvait en tirer. Ce serait une satisfaction pour lui que de dire à Timpson, à son retour à la ville, « J'ai procuré un bon élève à votre gendre ». Naturellement aussi, il présentait comme un instituteur recommandable le mari de Louisa Timpson, qu'il avait vu, elle et ses boucles blondes, pendant près de 15 ans le dimanche à l'église. De plus, il n'avait pas de motif d'en indiquer un autre plutôt que Stelling. Tarleva lui avait demandé son avis. C'est toujours désagréable entre amis de dire qu'on n'a point d'opinion à donner. Et si vous donnez un conseil, c'est tout à fait ridicule de ne pas le faire d'un air de conviction et de connaissance bien fondée. En exprimant une opinion, vous vous l'appropriez, et naturellement vous venez à l'aimer. Ainsi, M. Riley, qui au commencement ne savait rien de défavorable à Stelling, mais lui voulait vaguement du bien, n'en eut pas plutôt fait l'éloge qu'il commença à penser avec admiration à un homme recommandé par une autorité si relevée et prit si promptement un vif intérêt à la chose que, si M. Tarleva avait fini par refuser d'envoyer son fils à M. Stelling, Riley aurait trouvé que son ami de l'ancienne école n'était qu'un individu à tête d'âne. Si vous blâmez sévèrement M. Riley de donner une recommandation basée sur de si légers fondements, je crois pouvoir vous dire que vous êtes dur à son égard. Pourquoi s'attendre à ce qu'un commissaire priseur d'il y a 30 ans, qui avait presque oublié son latin de l'école libre, montre à une scrupuleuse délicatesse que l'on ne trouve pas toujours chez des hommes de profession libérale, même à notre époque de progrès moral? Outre cela, un homme qui a en lui le germe de la bienveillance humaine peut difficilement s'abstenir de faire une bonne action, et une bonne action ne peut pas s'étendre à tout le monde. La nature elle-même pose quelquefois un désagréable parasite sur un autre animal contre lequel elle n'a aucun mauvais vouloir. Qu'en résulte-t-il? Que nous admirons son attention pour le parasite. Si M. Riley se fût abstenu de donner une recommandation qui ne fût pas basée sur des preuves solides, il n'aurait pas procuré à M. Stelling un élève bien payant, ce qui eût été moins satisfaisant pour ce révérend. Considérez aussi toutes ces agréables petites idées, un peu confuses mais flatteuses, telles que d'être bien avec Timpson, de donner son avis quand on vous le demande, de pénétrer son ami Tarleva d'une nouvelle dose de respect, de dire quelque chose et de le dire avec emphase, et tout cela devant un bon feu et un grog bien préparé. Tout cela, sans cette recommandation donnée, n'aurait point existé pour M. Riley.